Bonjour tout le monde, mon nom est Antoine Perrault, je suis le directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. J'accueille aujourd'hui deux personnes qui vont venir nous parler de réadaptation en déficience visuelle au Québec. Je vais les laisser se présenter.
Bonjour tout le monde, Laetitia Larabie, travailleuse communautaire au RAC depuis 3 ans. Et avec Martine qui va se présenter par la suite, je chapeaute le dossier réadaptation pour le RAC. Et puis je vis aussi avec une limitation visuelle.
Alors bonjour, mon nom est Martine Bédard. Je suis vice-présidente OCA du RAC. Je suis aussi porteuse de dossier du comité réadaptation au RAC. Et je chapeaute aussi le RAM, donc le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, qui dessert Laval, la ville de Montréal et la Montérégie en tant que présidente au sein du CA. Je vis aussi avec une limitation visuelle comme Laetitia.
Merci beaucoup. Premièrement, Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la réadaptation au Québec?
Alors, ce sont des services spécialisés. Puis, dans le cas de la déficience visuelle, ce sont des services qui vont permettre aux personnes qui ont un handicap visuel de garder ou de retrouver de l'autonomie dans leurs habitudes de vie. Donc, on a des spécialistes de la réadaptation en déficience visuelle qui travaillent pour des centres de réadaptation publics qui sont présents un peu partout à travers la province, qui vont travailler avec les personnes donc, qui ont une déficience visuelle pour les aider à développer certaines habiletés. Ils vont leur apprendre à utiliser leurs autres sens, puis ils vont leur apprendre aussi à utiliser leur vision fonctionnelle, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont une déficience visuelle qui sont totalement aveugles. Donc, on va les aider à utiliser au meilleur de leur capacité la vision qui leur reste. On va leur montrer des techniques, leur enseigner des stratégies, par exemple pour se déplacer, pour s'orienter de façon autonome et sécuritaire. On va leur fournir des aides techniques adaptées qui vont leur permettre de lire, d'écrire, d'utiliser un ordinateur. Et puis tout ça, ultimement, ça va permettre aux personnes de travailler, d'étudier, de magasiner dans leur quartier, de vaquer aux activités de la vie quotidienne et puis d'assurer leurs rôles sociaux.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la division de ces services-là dans le Québec?
Oui, ben on a 14 centres de réadaptation dans différentes régions administratives. Ces centres de réadaptation-là, ils ont été fusionnés en 2015 avec les centres intégrés de santé et services sociaux. Donc, chaque 6 offre des services en déficience visuelle. Donc, il faut être référé par un professionnel de la santé. Là, une personne qui recevrait un diagnostic de perte de vision peut être référée vers ces services par un professionnel de la santé. Ce sont des services qui sont gratuits, qui sont accessibles à tous, puis qui vont être donnés à la personne dans ses différents milieux de vie. Donc, ça peut être sur son lieu de travail, à domicile, ça peut être au sein même du centre de réadaptation, ça peut être à l'école, dans son quartier, dans les transports en commun. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, ce que je comprends, c'est que peu importe la personne se trouve où au Québec, il y a un centre de réadaptation qui est censé pouvoir répondre à ses besoins.
Oui. Après, c'est sûr que le Québec, c'est grand. Les régions sont plus ou moins grandes. C'est sûr que ça va être il n'y a pas de centre de réadaptation dans toutes les régions, sur tout le territoire du Québec. Mais normalement, ces services-là, ils doivent être accessibles à proximité de la personne. Donc, les intervenants vont se déplacer où il y a des programmes d'hébergement transport qui existent aussi, pour que la personne puisse aller recevoir ces services s'ils ne sont pas disponibles près de chez elle. Mais en principe, oui, c'est accessible à proximité de là où habite la personne.
Par curiosité, en 2024, c'est quoi la situation de la réadaptation en déficience visuelle au Québec?
Ben, on constate depuis les dernières années, c'est un peu le même constat qu'on fait avec le système de santé au Québec en général, c'est que il y a une détérioration. C'est de plus en plus difficile d'accéder aux services. L'attente est longue. Il y a aussi des problèmes au début du cheminement pour être référé vers les bons services au bon moment. Les intervenants, il y en a de moins en moins. Quand on est rendu au stade où on reçoit des services après souvent une longue attente, ben, c'est sûr que les intervenants ils sont débordés, ils n'ont pas nécessairement autant de temps qu'ils avaient avant à consacrer aux usagers. Ça se répercute malheureusement sur la qualité des services. Et nous, au RAC, à travers nos associations régionales, on se tient au courant de l'état des services dans les différentes régions du Québec. Puis on sait que partout, les délais d'attente pour accéder aux services se rallongent. On entend parler d'une perte de qualité, d'une perte d'expertise. Donc, c'est sûr que depuis les dernières années, on constate une détérioration.
Qu'est-ce que le RAC fait pour tenter d'améliorer les choses puis de régler ces problèmes-là?
Ben, depuis plusieurs années, notamment à travers notre comité réadaptation, on a développé un certain nombre de revendications pour l'amélioration des services de réadaptation. On a fait des consultations sur l'état des services, sur l'accès aux aides visuelles. On a des contacts avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. On fait beaucoup de représentations auprès de nos interlocuteurs pour faire valoir nos revendications. Mais c'est sûr qu'on sait que les changements, les améliorations qu'on demande vont pas se faire du jour au lendemain parce que le système de santé québécois, c'est un système qui est très lourd. Il y a beaucoup de bureaucratie. Donc, c'est sûr que pour que nos revendications se fassent un chemin dans tout ce système, ça risque de prendre du temps. Donc, en attendant, ben, on a décidé de produire un guide de familiarisation avec les services de réadaptation pour aider les personnes qui ont reçu un diagnostic de perte de vision puis qui sont en attente de recevoir des services pour les aider justement à se familiariser avec notre système de réadaptation, savoir quelles sont les étapes du cheminement en réadaptation, dans quoi elles s'embarquent, qu'elles puissent connaître l'étendue des services de réadaptation parce que, somme toute, on a un bon système avec une gamme de services très étoffée, donc pour leur permettre de connaître ces services, de défendre leurs droits. Parce que ce qu'on constate, c'est que comme l'attente est longue, bah, les personnes, elles sont un peu laissées à elles-mêmes, puis elles ne savent pas nécessairement qu'elles ont la possibilité, par exemple, de contacter le centre de réadaptation pour savoir où est-ce qu'elles sont rendues sur la liste d'attente, de recevoir des services d'appoint. C'était le but aussi pour nous, c'était important d'arriver avec un document qui outille les personnes et leurs proches pour qu'elles puissent ben, se familiariser avec les services de réadaptation déficience visuelle.
Merci beaucoup, Laetitia. C'était très clair, cette présentation. Je donnerai maintenant la parole à Martine qui va nous parler un peu de son parcours, qui va nous expliquer un peu les choses qu'elle a vécues et qui va nous parler un peu de pourquoi, selon elle, le guide est un bel outil pour les personnes qui vivent une perte de vision.
Bien, premièrement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Moi, je suis aveugle complètement, donc je suis non-voyante. J'ai aucune perception lumineuse. Et cela depuis seulement 2018, donc il y a 5 ans et demi à peu près. J'ai perdu la vue subitement, donc je suis rentrée à l'hôpital voyante. Et j'en suis ressortie 2 mois plus tard, complètement non-voyante. J'ai passé 2 mois aux soins intensifs à lutter pour ma vie, pour en ressortir avec certains problèmes de santé, mais surtout complètement non-voyante. Je dois dire que c'est tout un choc. c'est ta vie change à 360 degrés. Un tsunami, puis ça se ressemble beaucoup pour la simple et unique raison qu'il n'y a rien de pareil. Moi, en octobre 2018, quand je suis sortie de l'hôpital avec mon conjoint et que je suis arrivée chez moi, ben, je ne connaissais absolument pas, je connaissais rien de l'handicap visuel. J'en avais pas vraiment dans ma famille. Je connaissais pas les services. Je connaissais rien. Je connaissais absolument rien de ce que c'est qu'être un handicapé visuel. Et quand on perd la vue complètement comme ça, ben, il n'y a rien de pareil. On est démuni. Psychologiquement, on est complètement atterré. Notre vie est finie. Là, aujourd'hui, je vous parle du passé. Moi, j'ai passé presque un an à attendre la mort parce que pour moi, ma vie était finie en 2018. Je ne pouvais pas comprendre que j'aurais pu un jour faire quoi que ce soit d'autre. Je ne savais pas comment faire marcher mon micro-ondes. Je n'étais même pas capable de faire fonctionner mon téléphone cellulaire. J'avais pas de ligne téléphonique à la maison, puis tout ce que j'avais, c'était un cellulaire. Puis quand tu vois pas, ben un écran tactile, ben ça fonctionne pas bien quand tu as besoin de mettre le doigt à la bonne place sur le bon endroit. Toute cette information-là, on l'a pas. Puis vous savez, quand on sort de l'hôpital avec une jambe en moins, on vous envoie dans un endroit pour réapprendre à marcher, pour réapprendre un centre de réhabilitation. Quand tu perds ta vue complètement, puis tu as un conjoint avec toi, ben on t'envoie chez toi. Puis on attend. On attend. Puis moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai un ophtalmologiste extraordinaire qui m'a tout de suite référé à l'Institut national Louis Braille. Par contre, les délais d'attente que Laetitia a parlé tout à l'heure, moi, je les ai vécus en 2018. Alors, j'ai eu un premier service 6 mois à peu près après ma perte de vision. Donc, j'ai été 6 mois chez moi à attendre. Mais quand tu attends et que tu es dans le noir complètement, ben, tu peux rien faire. Puis, je vais vous dire que la vie était terminée pour moi. J'ai rampé à quatre pattes pour aller à ma salle de bain pour pas me faire mal. Je pourrais pas vous raconter toutes les choses que j'ai pu faire. Je peux vous dire que moi, dans la vie, je mangeais des toasts chauds. Puis ça, c'était important dans ma vie. Aujourd'hui, là, je suis chanceuse s'ils sont tièdes, même aujourd'hui encore. Je fais beaucoup de blagues avec ça parce que ça vous donne juste un exemple de certaines choses des limitations qu'on peut avoir quand on a un handicap visuel. J'étais chanceuse parce que j'avais un conjoint avec moi qui était extraordinaire. Mais, lui partait travailler le matin, puis moi, j'étais désespérée toute la journée. Je braillais. Tout ce que je faisais, c'est pleurer. J'essayais de faire fonctionner mon téléphone cellulaire pour écouter un livre audio, ce que je faisais avant. Mais j'étais pas capable. J'avais beaucoup, beaucoup de misère. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés parce que j'avais aucun apprentissage. Je connaissais rien. Si à ce moment-là, le guide que le RAC déploie aujourd'hui aurait été accessible, que mon conjoint aurait eu ce guide-là. Je vous dis, ma vie, ou en tout cas, mon année de 2018 à 2019 aurait été très, très différente. Ça ne veut pas dire que j'aurais adhéré à tout ce qui était là-dedans parce que je n'aurais pas été prête psychologiquement, mais il y aurait au moins eu quelques petites choses que j'aurais pu faire comme m'informer à des endroits qui peuvent me donner de l'aide, je vais dire semi-instantanée, parce que de l'aide instantanée, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais je sais que l'Institut national canadien pour aveugles, l'INCA, donne des formations en technologie pour le téléphone. J'aurais pu au moins me sentir un peu en sécurité pour être capable d'appeler mon conjoint pendant la journée que j'ai été à la maison. Ce guide-là aurait probablement changé une partie de ma perception. Et ça m'aurait énormément aidé.
Merci beaucoup, Martine, de ton témoignage. Moi, je suis curieux, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu. Quand tu as commencé à recevoir des services, comment ça s'est passé? C'est qui les professionnels que tu as rencontrés? C'est quoi les démarches que tu as faites?
Je vous dirais qu'au début 2019, j'ai commencé à appeler à l'INLB, l'Institut national Louis Braille, pour commencer à avoir des services. Parce que moi, j'avais le besoin de me faire voir en tant qu'handicapée visuelle parce que j'étais terrifiée. Tout me terrifiait. Sortir de la maison, c'était terrifiant. J'étais apeurée à 300 %. Alors, je voulais absolument avoir une carte blanche. Alors, pour moi, c'était l'outil qui était pour me donner une partie de ma sécurité. Finalement, j'ai eu une petite formation avec mon conjoint. Mon conjoint a eu une formation pour me guider parce qu'au début, mon conjoint n'avait pas de formation. Fait que je vous dirais qu'on se débrouillait tant bien que mal. J'avais toujours peur qu'il se blesse parce qu'il me tenait les mains, il me regardait, puis il reculait, puis c'est pas la bonne façon de guider. Puis 6 mois après, j'ai commencé à avoir de la formation en mobilité orientation avec une personne spécialisée en mobilité orientation. J'ai aussi eu des formations, de l'aide au point de vue psychologique avec une travailleuse sociale de l'INLB. J'ai aussi eu ce que moi j'appelle un petit coach de vie, mais c'est une personne qui vient à la maison pour vous aider à faire de la cuisine. Passer votre balayeuse, vous aider dans toutes les tâches quotidiennes de la maison. Ces gens-là sont extraordinaires, ils offrent des services sublimes. Ce sont des gens de cœur que moi j'ai rencontrés. Je suis très, très chanceuse des gens que j'ai pu rencontrer. Et il y a aussi tout le volet technologique. Moi qui n'étais pas capable de répondre à mon téléphone après de la formation avec mon intervenante. Ben, on met une synthèse vocale sur notre téléphone, pas besoin de changer de téléphone, puis tout à coup, oups, le téléphone il parle. Et que ce soit l'ordinateur, et aujourd'hui je suis sur mon ordinateur pendant qu'on se fait enregistrer, alors je suis capable de prendre mes courriels, d'écrire des courriels, de tout faire sur mon téléphone, d'écouter de la musique, de parler, de répondre. Tous ces gens-là m'ont donné des services extraordinaires. J'ai aussi eu des services de l'Institut national canadien pour aveugles, donc l'INCA, qui m'ont offert des groupes de soutien. En 2019, j'ai suivi les formations, les groupes. Vraiment, c'est des groupes de soutien. Donc, j'ai rencontré des gens qui me ressemblent. Et pour moi, ça, c'était très important parce que j'avais besoin de comprendre si j'étais comme seule au monde, être comme ça. Je savais que je ne l'étais pas, mais j'avais besoin de parler avec des gens comme moi qui vivaient sensiblement les mêmes choses que moi parce que quand tu es une personne qui travaille, qui s'occupe de sa maison, qui fait tout, hein, qui fait tout de façon régulière et autonome, et que là, tu as des limitations et tu as une courbe d'apprentissage extrêmement, extrêmement haute à franchir, mais ça se fait. Et j'ai trouvé à l'intérieur de ces gens-là, les gens que j'ai rencontrés à l'INCA, des gens qui me ressemblent et des gens qui vivaient les mêmes choses que moi. Donc, j'ai des amis. J'ai rencontré des amis, des gens avec qui je suis encore amie aujourd'hui et que je trouve extraordinaire parce que quand on est des amis, on a des choses on a des choses en commun. Et la chose en commun avec moi et ces gens-là, ben, c'est qu'on a toute la gang perdu la vue. Et certaines de mes amies ont perdu la vue subitement, près en même temps que moi. Puis c'est des courbes qu'on a apprises ensemble, puis on a surmonté des choses à pleurer des soirs au téléphone. Mais en même temps, on a surmonté tout ça ensemble. Et c'est des services extraordinaires. Et je rajoute à ça, parce que je vais rajouter le RAM, qui est un organisme de défense de droits, mais aussi d'inclusion, qui offre des services d'accompagnement. Qui offre des activités aussi. Et j'ai trouvé au RAM des gens passionnés, des gens super géniaux. Et je vais rajouter à ça le RAG, qui est un regroupement de regroupement, qui après que je sois au RAM, j'ai rencontré les gens du RAC, qui sont des gens passionnés comme Laetitia, des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir à l'intérieur de cette communauté-là qui est la mienne maintenant. Et je suis extrêmement fière de faire partie de cette communauté-là et de m'impliquer à l'intérieur de cette communauté.
Je suis curieux, Martine, parce que comme tu l'as dit, j'ai la chance de travailler avec toi au RAC. Ça ressemble à quoi en 2024, les journées de Martine? C'est quoi tes implications? C'est quoi les dossiers que tu portes? C'est quoi les projets que tu mènes?
Ben, si en 2018, on m'aurait dit, Martine, tu vas être extrêmement occupée, j'aurais dit, non, 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 ça fonctionne pas, là, ça se peut pas. En 2018, même toute l'année 2019, là, moi, tout ce que je faisais, c'était que je me berçais dans mon fauteuil, j'écoutais des livres audio, parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir des livres audio, j'ai réussi à en écouter, et j'ai fait ça pendant un an. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement différente. Ma vie aujourd'hui ressemble beaucoup plus à ma vie avant ma perte de vision. C'est-à-dire que j'ai décidé, moi, personnellement, de m'impliquer dans cette nouvelle communauté et de connaître et de comprendre comment ça fonctionne et tout le rouage de ma nouvelle vie, dans le fond. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle façon de penser. Aujourd'hui, je suis occupée comité des activités du RAM. Donc, je m'occupe avec les gens dans la permanence qui travaillent au RAM d'offrir les activités 3 fois par année. Je fais aussi partie du comité culture. Donc, oui, la culture pour les handicapés visuels, ça existe. Et le RAM en est très fier. Au RAC, je m'implique au niveau avec Laetitia, au comité réadaptation, parce que je trouve que c'est des services qui sont hyper importants. Et c'est, j'ai une personne de cœur. Donc, moi, quand ça me touche, ben, ça me touche profondément. Puis, alors, j'essaie de m'impliquer. Non, pas j'essaie. Je m'implique à fond dans tout ça, dans le RAC, dans le RAM, dans les activités de tous les jours. Je suis présente à Laval, à l'Association Lavalloise pour le transport adapté. Je m'implique partout où je sens que je vais peut-être faire une petite différence parce que j'ai envie de faire une différence dans la vie des gens qui, comme moi, un jour peut-être dans le futur, puis je ne le souhaite pas, vont perdre la vision, que ce soit subitement ou non. Mais les gens qui perdent leur vision subitement, moi, ça me touche particulièrement parce que c'est ce qui m'est arrivé. Puis j'aimerais ça peut-être alléger leur souffrance des premiers temps. Parce que revivre, ça se fait. L'être humain est si bien fait qu'il s'adapte à tout, par preuve. Moi, je l'ai réussi à le faire. Alors, oui, je suis impliquée partout. Ben, pas partout, mais presque.
Je suis curieux, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de tes clubs de lecture et de comment ils fonctionnent?
Ah oui, les clubs de lecture. Alors, au RAM, on offre une activité de club de lecture. Alors, c'est moi qui en ai l'animatrice. Moi, j'ai toujours été une lectrice passionnée depuis toujours. Alors, les livres, pour moi, là, sentir un bon livre, je trouvais ça, j'avais besoin de ça, sentir un bon livre. Aujourd'hui, je ne les sens plus, mais je les écoute énormément. Alors, on offre à toutes les sessions d'activité, donc 3 fois par année, un club de lecture qui dure environ pendant de 10 à 12 semaines, à toutes les 2 semaines. On se rencontre, on est à peu près une douzaine. Alors, il y a 12 places dans mon club de lecture au RAM. Les gens se rencontrent par Zoom et on a des lectures à faire, optionnelles ou non. Ceux qui ont envie de le faire, ils le font. Si c'est un livre qui ne vous plaît pas, vous ne le faites pas. Puis, on lit le livre et 2 semaines après, on en discute. Donc, on en fait la critique de haut en bas. Ces livres-là sont suggérés par les membres et j'ai des membres de 45 ans à 87 ans. Voilà. Alors, je suis privilégiée d'animer le club de lecture. Ces gens-là sont des gens passionnés qui adorent la lecture et moi, j'ai appris énormément de chacun de mes participants. Ça m'apporte grande joie. Tous les mercredis après-midi, pendant 2 heures, on jase lecture et je suis vraiment privilégiée d'être entourée de ces gens-là. C'est des gens qui ont des limitations visuelles, on s'entend, mais qui, comme moi, veulent continuer à lire et adorent la lecture.
En terminant ton témoignage, est-ce que tu as une recommandation lecture à faire?
Oh! J'en ai plusieurs, mais je ne sais pas si vous connaissez le petit livre La Tresse de de Laetitia Colombani. C'est un beau petit livre, très bien ciselé, qui a plu à pas mal tout le monde. Je pourrais vous en faire plusieurs, mais je vais laisser la tresse vous porter dans trois continents avec trois femmes extraordinaires qui ont des belles choses à dire.
Merci beaucoup, Martine, pour ton témoignage. En terminant ce petit segment audio, je veux vous rappeler que notre guide de réadaptation est disponible en format audio. Il est disponible en format PDF et on travaille à le mettre en format Word. Il va aussi être disponible en HTML sur notre site web, donc il y a plusieurs façons d'y avoir accès. N'hésitez pas à le consulter, à le lire et surtout à le partager largement. Vous avez un médecin, amenez-lui. Vous avez un spécialiste avec qui vous travaillez. N'hésitez pas à lui en parler, que ce soit à travers un lien web, que ce soit à travers un imprimé. C'est un guide qui doit circuler largement. On l'a travaillé puis développé avec en tête l'idée d'aider les personnes, qui vivent avec une perte de vision.